Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'Iliade dans cette situation extrêmement particulière puisque nous sommes dans une configuration tout à fait inédite, hein, en pleine crise sanitaire. Et néanmoins, par rapport à l'ordre du jour et notamment au premier point, nous avons l'obligation de nous retrouver en présentiel pour procéder à un vote. Le décret du 29 octobre demande la réunion en présentiel des assemblées délibérantes pour ces cas. Et donc, en ce sens, nous avons respecté la loi. Et il est vrai que, on en parlait encore avec M. Cablé, il existe encore un petit flou juridique sur la prorogation de l'état d'urgence, et donc notamment pour l'organisation des différents débats dans les assemblées délibérantes. Donc voilà, mais en tout cas... On a préparé... Il est allumé ? Ah, du coup, on a préparé quand même une solution au cas où on aurait un bug en référence à la dernière fois. En tous les cas, voilà, tous les conseils municipaux que nous pourrons faire en distanciel, nous les ferons. L'exception étant ce soir, et en espérant que l'allègement des mesures au 1er décembre nous permettra, début décembre, de pouvoir tenir en présentiel le débat d'orientation budgétaire et ensuite, courant du mois de décembre, dans la foulée, le vote du budget primitif. Parce que je pense que c'est quand même mieux si on peut faire le débat d'orientation budgétaire en présentiel. Je vais laisser mon collègue, du coup, Antoine Fridly, faire l'appel nominal.
Merci. Donc, Monsieur Barman Emmanuel. Présent. Monsieur Beaujeu Rémy.
Présent.
Madame Bonnemeyer Catherine.
Présente.
Madame Castellon Martine.
Présente.
Madame Klaus Stéphanie.
Présente.
Madame Combézil Marie.
Présente.
Madame Dabissing Davina.
Présente.
Monsieur Deschaux Arnaud. Arnaud, pardon.
Deschamps. Deschamps Arnaud, oui.
Madame Didlot Sandra.
Présente.
Madame Dreyfus Elisabeth.
Présente.
Fridly Antoine, je suis présent. Monsieur Frely Claude. Monsieur Fru Hervé donne procuration à Monsieur Yvon Richard. Madame Galère Lisa.
Présente.
Madame Gendro Pascal. Présente. Monsieur As Philippe. Présente. Madame Haïm Valérie.
Présente.
Monsieur Herbeau Cédric.
Présent.
Madame R. Isabelle. Monsieur Kiel Fabrice.
Présent.
Monsieur Kircher Jean-Louis. Monsieur Kouji Lamed. Madame Leleu Bénédicte. Monsieur Lévy Thomas. Donc Madame Magdeleine Séverine donne procuration à Monsieur Claude Frely. Madame Massé Grise Dominique.
Présent.
Monsieur Pfister Luc. Monsieur Philippe Thibault.
Présent.
Monsieur Richard Yvon.
Présent.
Madame Rimlinger Barbara.
Présent.
Madame Rinkel Marie donne procuration à Monsieur Lamjed Saïdani. Donc Monsieur Saïdani Lamjed. Monsieur Scheuer Serge.
Présent.
Madame Seigneur Sylvie.
Présent.
Et Monsieur Steinhardt André.
Présent.
Parfait, merci.
Merci. Du coup, comme de tradition depuis la semaine dernière, peut-être un petit point sur les conditions sanitaires, sachant qu'on vient d'obtenir un rapport avec des chiffres mis à jour. Du coup, sur le taux d'incidence sur l'Eurométropole de Strasbourg, on observe une diminution du taux d'incidence. On est passé à 512 cas pour 100 000 habitants. Donc, on voit un petit peu un ralentissement, en tous les cas, dans le taux d'incidence. Et par rapport aux personnes âgées, on est encore sur quand même un taux d'incidence qui est assez important, à 409 cas pour 100 000 habitants. Ce qui est un peu plus interpellant, et c'est ce qui était dit aussi dans la conférence de presse qui a été tenue par le gouvernement et notamment le Premier ministre, c'est qu'il y a aujourd'hui une arrivée en réanimation et on l'observe bien ici à Strasbourg puisque dans le Bas-Rhin, on est passé de 66 personnes en réanimation à 75 personnes en réanimation. Donc on sent quand même
un afflux en réanimation, et c'est un petit peu l'incidence justement de cette épidémie où les personnes qui rentrent à l'hôpital ne rentrent pas forcément immédiatement en réanimation. En tous les cas, depuis la semaine dernière, nous avons eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de sujets. Je pense que ce qui serait intéressant peut-être, c'est que Sylvie Seigneur puisse nous faire un rapide rapport sur téléphonage, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été bien suivi et bien fait, et sur la collecte qui est actuellement en place dans le hall de l'hôtel de ville.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc en ce qui concerne le téléphonage, Téléphone Vache va officiellement démarrer le 1er janvier, enfin le 2 plus exactement. Nous avons eu une mise à disposition d'un agent de la mairie d'Ilkirch pour débuter, puisque actuellement on ne peut pas accueillir, compte tenu de la situation, des services civiques qui ne pourraient pas développer complètement des compétences au sein de la mairie. Donc nous avons un numéro dédié et donc ce numéro va paraître dans l'infographe du mois de décembre avec un coupon détachable de façon à ce que les personnes puissent le garder, et ce sera quelque chose de facilement identifiable. Voilà, donc les personnes auront la possibilité d'appeler 24 heures sur 24 et la personne dédiée pourra ainsi rappeler de façon rapide les personnes qui en feraient la demande. En ce qui concerne la collecte, vous avez vu qu'il y avait une collecte qui avait été mise en place, dans l'accueil de la mairie. En fait, on a pris un petit peu les devants avant la décision nationale des banques alimentaires de ne plus faire déplacer des gens pour déposer des produits. Mais néanmoins, on va continuer pour des personnes qui sont de passage, et cette collecte sera remise à la banque alimentaire. D'autre part, la banque alimentaire donc dématérialise sa collecte. Lorsque vous irez chez les commerçants, vous pourrez effectivement faire un don en payant les articles que vous aurez achetés dans chaque commerce, supermarché, hypermarché, etc. Également, le conseil départemental va mettre en place dans les deux collèges des collectes, de façon à ce que les enfants puissent, quand ils viennent en cours, bien déposer des produits. Et nous allons organiser également, en ce qui concerne la mairie, des collectes dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Donc vous aurez les précisions dans ces prochains jours, puisqu'on doit encore se revoir avec les élus de référence ainsi que le service de la mairie. Donc voilà, si vous avez des questions.
Merci Madame Seigneur. Du coup, voilà pour la partie, on va dire, plutôt dans l'espace solidarité, notamment au contact des aînés, qui peuvent être souvent isolés chez eux. Et donc, c'est important de garder le contact et de voir s'ils ont tous les besoins dont ils disposent. Je sais aussi qu'au niveau du centre socioculturel, le Phare de Lille, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises et que Lisa Galère peut peut-être nous présenter rapidement, succinctement, puisqu'il y a aussi une aide aux devoirs qui est proposée et puis un appel aux bénévoles.
Merci Monsieur le maire. Alors en effet, lors du premier confinement, le centre socioculturel, le Phare de Lille, avait totalement arrêté son activité et avait limité au minimum vital. On a fait le choix de garder le centre socioculturel ouvert tout en limitant les accès, c'est-à-dire que les activités, au même titre que le périscolaire, les activités pour les enfants ont été maintenues avec des limitations d'effectifs d'enfants. Les activités bénévoles pour les familles et pour les seniors ont été, quant à elles, annulées. Pour la protection de nos seniors, on ne pouvait pas garder les activités pour les familles. Et nous avons gardé donc le classe, l'aide à la scolarité, qui fonctionne, qui a beaucoup d'élèves, mais qui n'a plus de bénévoles, parce que la majorité des bénévoles avaient plus de 60 ans et qui restent bien chez eux pour se protéger. Donc nous faisons un appel à bénévoles, des jeunes, qui puissent aller aider les enfants à faire leurs devoirs le soir. Et nous avons gardé aussi l'aide au numérique pour les démarches administratives sur rendez-vous uniquement. Voilà, merci Monsieur le maire.
Merci. En tous les cas, voilà pour le centre socioculturel. Et il était à notre sens important de pouvoir le maintenir ouvert parce que comme l'éducation continue, c'était aussi un complément de l'éducation qui est donnée dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Dans les écoles, pour le moment, les choses se passent relativement bien. On a eu un certain nombre de remontées et on a toujours essayé de faire le nécessaire en lien avec l'inspectrice d'académie, Madame Mallard. Donc on a une bonne relation aussi avec l'éducation nationale, ce qui permet aussi d'aider à la mise en place des protocoles, puisque c'est toujours compliqué, on va dire, dans des bâtiments qui sont gérés par la ville et avec un certain nombre de choses qui sont régentées par l'éducation nationale, de trouver le bon point d'équilibre. Mais je pense qu'on a su le faire ces derniers temps. La lettre d'infographe diffusée chaque semaine pour donner de l'information a commencé à être distribuée. L'idée de cette lettre, c'était de mettre en avant les commerçants qui proposent, les artisans et les restaurateurs qui proposent des services, de l'emporter, de la livraison. Donc elle va être distribuée encore une fois dans toutes les boîtes aux lettres d'Ilkirch-Grafenstaden. Et l'opération « Je suis et j'achète Ilkirchois » voilà, commence à prendre de l'ampleur. On a eu beaucoup de retours sur l'adresse mail dédiée de restaurateurs, d'artisans et de commerçants qui souhaitaient faire paraître l'information de leur ouverture. Et je sais que mes collègues travaillent également ardemment sur les bons d'achat pour qu'ils soient prêts au moment du déconfinement et qu'ils puissent continuer à aider nos commerçants, nos artisans et nos restaurateurs. Sachant qu'avec la conférence de presse qu'on vient de vivre, on a bien compris que pour les restaurateurs, les bars et les salles de sport, il n'y aurait pas d'horizon avant un certain temps, avant, je pense, 2021. Et donc, en ce sens, il va falloir aussi pouvoir les soutenir et les aider à travers les services d'emportée ou de livraison qu'ils proposent, puisque plus que jamais, ils vont avoir besoin de nous. En tous les cas, on travaille aussi avec tous les partenaires. J'ai cité l'éducation nationale. Je suis en lien avec certains membres aussi de l'équipe, avec le député qui était d'ailleurs présent hier à la cérémonie commémorative, pour qu'on puisse communiquer aussi aux différents professionnels les aides qui sont proposées par l'État. Et je pense que c'est important puisqu'il y a un certain nombre d'aides, notamment pour les commerçants, pour aller vers la digitalisation, donc de faire bien connaître et de bien échanger sur ces aides. On va également proposer une séance d'échange avec le président de la région Grand Est, Jean Rotner, puisqu'aujourd'hui, il a été annoncé un plan de soutien aussi de la région. Et donc, je pense que c'est important qu'on arrive vraiment à travailler main dans la main entre les différentes collectivités, avec l'État, pour que vraiment, au niveau du service public, de manière générale, on puisse aider nos professionnels, aider nos populations à pouvoir passer cette période et surtout à rebondir une fois que cette période, je l'espère, sera terminée. Donc je vous laisse la parole. Peut-être Sylvie avait encore une intervention, ensuite j'ouvre la parole.
Oui, je voulais juste rajouter que le personnel aussi de la mairie, toute cette semaine, s'est mobilisé pour appeler des personnes âgées. Elles ont pu contacter à ce jour 350 personnes pour connaître effectivement les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Donc il y a l'équipe du CCAS et il y avait deux personnes des services généraux qui se sont rendues disponibles pour appeler. Également Habitat de Lille qui a mis à disposition du personnel pour pouvoir appeler les personnes de leurs différents appartements. Voilà. Merci.
Merci, Madame Seigneur. Peut-être Elisabeth Dreyfus, du coup.
Oui, merci, Monsieur le maire. Je tenais à remercier vraiment tous les services, parce que c'est vrai qu'ils sont tous très, très engagés dans ce combat qu'on mène. Et également au service de l'enfance. Il y a par exemple une personne qui a été détachée rien que pour gérer tout ce qui est restauration scolaire avec des gens qui appellent pour retirer leur enfant ou pour les y mettre. Et puis, on a essayé de s'organiser pour que ce soit faisable du jour au lendemain. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça. Grand merci aux services qui se mettent vraiment en quatre pour le bien de tous les citoyens.
Tout à fait. Madame Gendreau, du coup, avait demandé la parole.
Oui, merci, monsieur le maire. Oula. J'ai deux... Alors, une première question, je pense que si il y avait une réponse, vous nous les auriez donnée, mais c'est pour avoir une confirmation. J'imagine qu'on a des chiffres au niveau de l'OMS, mais qu'on n'a aucune visibilité réelle, uniquement sur le bloc communal d'Ilkirch, par rapport au taux d'incidence, etc.
Non, c'est une volonté qui avait été déterminée par Santé publique France, de dire qu'on reste sur des bassins comme l'Eurométropole, pour pas qu'on stigmatise une ville ou l'autre ville. Donc, en fait, les données qui sont parfois données à titre vraiment de ville dans des magazines, Le Point avait eu l'occasion de le faire, c'est plutôt des recoupements par rapport à des laboratoires privés qui donnent des données que réellement des chiffres officiels qui sont redescendus de Santé publique France dans les ARS régionaux.
D'accord. L'autre, j'ai trois points, donc j'ai une autre question concernant l'appel à bénévoles que vous avez indiqué pour le CLAS. Est-ce que vous pouvez nous dire par quel moyen est diffusé cet appel ? Parce que moi, je connais pas mal d'étudiants à Ilkirch qui sont peut-être un peu disponibles. Donc, par quel moyen l'appel est-il diffusé et comment on peut, s'il y a besoin de gens, comment on leur fait savoir et comment on va les chercher ?
L'appel a été diffusé sur les réseaux sociaux, ceux de la ville, ceux du service insertion jeunesse et ceux du centre socioculturel Le Phare de Lille, également sur le site du Phare de Lille, sur le site de la ville. Et ça apparaîtra dans le prochain infographe.
Et le troisième point que je voulais évoquer, on a beaucoup parlé des personnes âgées qu'on appelle, etc. Bon, c'est une très très bonne chose. Je voudrais savoir si vous avez moyen d'avoir connaissance ou si vous avez connaissance des gens qu'on sait de plus en plus nombreux qui seraient en très grande précarité, sans être forcément des personnes âgées, des gens qui ont des emplois précaires, des gens qui ont des contrats à durée déterminée ou des gens qui ont des petits boulots, des jeunes, etc. On constate aujourd'hui, on commence à constater une grande précarisation, en particulier dans la région parisienne, avec des gens qui font appel justement aux services de repas proposés par différentes associations de solidarité, qui sont des gens qui ont perdu leur emploi suite au premier confinement, qui ont puisé dans leurs réserves pour tenir le temps du premier confinement, qui aujourd'hui n'ont plus de réserves. Donc des gens qui avaient des auto-entrepreneurs, etc. Donc est-ce qu'on a un peu une image de la population de notre ville qui pourrait être dans ces situations-là, qui ne se manifesterait pas forcément. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a des outils ? Est-ce que vous avez déjà identifié des choses ? Est-ce qu'il y a des moyens d'identifier pour peut-être aussi ne pas oublier les plus précaires, qui ne sont pas forcément toujours uniquement des personnes âgées, et pour pouvoir peut-être trouver des moyens de les soutenir pour cette passe difficile qu'ils vivent, surtout à l'approche des grands froids, etc., voilà, que les gens puissent au moins avoir un repas chaud ou des choses comme ça.
Tout à fait. Peut-être Sylvie Seigneur, du coup.
Oui, le numéro du CCS est assez connu, d'ailleurs, parce qu'on a pas mal d'appels, effectivement, mais on n'a pas forcément, ce jour, déjà, une courbe importante de demandes en plus. Ceci dit, vous avez pu voir que dans le dernier infographe, vous aviez un petit feuillet sur lequel étaient notés les différents numéros en cas de besoin. Donc, voilà, mais c'est un numéro qu'on peut effectivement reproduire dans les prochains numéros, éventuellement pour effectivement sensibiliser les gens à un guichet qui peut répondre à leurs besoins particuliers.
Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau de la ville d'Ilkirch-Graffenstaden, on a cet outil qui est le CCAS, avec des professionnels qui connaissent aussi cette population fragile, qui l'accompagne et qui voit malheureusement, pour les échanges que j'ai pu en avoir et que Sylvie Seigneur connaît bien, c'est qu'on voit une augmentation quand même du nombre d'appels devenus aussi au CCAS. Et de plus en plus, et c'est un fait quand même assez marquant, de plus en plus jeunes, on va dire, et notamment des étudiants. Et donc ça, c'est une préoccupation qu'il faut qu'on ait dans notre ville parce que nous avons la chance d'avoir quand même une partie du campus avec l'Université de Strasbourg et différentes écoles sur le territoire de la ville. Et donc, nous avons une population étudiante qui fréquente la ville. Et il faut qu'on sache aussi répondre à cette population un peu plus particulière parce qu'elle n'est pas toujours, en plus, domiciliée définitivement à Ilkirch-Graffenstaden. Elle est plutôt de passage pendant ses études. Néanmoins, au moment où elle est sur le territoire, il faut qu'on sache pouvoir l'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole, Monsieur Barman?
Oui, Monsieur le maire. Alors, nous comprenons que c'est parce que les dispositions législatives ne permettent pas encore un conseil municipal à distance que vous nous avez convoqué ce soir, ici à l'Iliade, alors que vous aviez indiqué la semaine dernière que vous espériez pouvoir nous réunir à nouveau début décembre. D'ailleurs, les propos du Premier ministre laissent entendre que ce sera plutôt après la mi-décembre, puisqu'il semble vouloir prolonger l'état d'urgence actuel, enfin l'état de confinement actuel, pour 15 jours. Vous craignez que les décisions de ce soir soient, enfin, vous craignez sans doute que les décisions de ce soir soient invalidées, mais ce risque pèse déjà en fait sur les décisions qui ont été prises dans le cadre du Conseil de la semaine dernière, puisque la prorogation n'est pas encore actée, ça ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, le cadre juridique devrait être sécurisé d'ici quelques jours, et vu l'ordre de jour de ce soir, nous aurions compris que vous décaliez le Conseil à la semaine prochaine. D'ailleurs, puisque pour être valable, le conseil municipal doit être ouvert au public, ce qui n'est pas le cas ce soir, il aurait été raisonnable de reconnaître l'impossibilité de le tenir compte tenu des conditions sanitaires actuelles. D'ailleurs, nous avons été très surpris de la manière dont s'est déroulée la cérémonie de commémoration du 11 novembre. Nous avons été informés la veille à 18h10 que la cérémonie se ferait finalement sans public, et en présence d'un seul représentant de chaque groupe. Alors, malgré le délai très court qui nous a été donné, imparti, nous nous sommes conformés à cette demande qui nous paraissait tout à fait légitime, d'autant que je vous avais personnellement sensibilisé par deux reprises jeudi dernier au fait qu'il n'était pas raisonnable de maintenir une cérémonie ouverte au public. Et cette communication de dernière minute n'a visiblement pas été reçue ou accepté tout simplement par l'ensemble des membres du conseil municipal quand on voit le nombre de personnes qui étaient présentes. Nous vous rappelons d'ailleurs que pour la cérémonie du 23 novembre, vous avez aussi prévu un événement public et nous vous invitons à informer sans attendre notre population que ce ne sera pas le cas. La situation sanitaire ne devrait pas évoluer de façon favorable d'ici là. Alors, cette semaine, la science nous a offert de l'espoir en annonçant qu'un vaccin efficace était sur le point d'être commercialisé. C'était une grande bouffée d'oxygène dans le climat anxiogène que nous vivons depuis quelques mois. Même les médias se sont emparés de la bonne nouvelle, alors qu'ils nourrissaient jusqu'à présent les actualités de nouvelles angoissantes concernant le Covid ou la Covid. Nous vous le demandons ce soir, faites comme la science cette semaine, apportez-nous de l'espoir. Nous avons quelques propositions pour cela à faire. Elles reposent sur un principe nietzschéen. Il faut oublier pour avancer. Bien sûr, il faut rester modeste face à la situation sanitaire actuelle en respectant les consignes du gouvernement. Nous sommes conscients que le rôle du maire est ingrat dans ces circonstances, mais il faut assumer le fait de n'avoir que peu de marge de manœuvre et rester humble. Nos propositions sont les suivantes. Arrêtez ce conseil municipal de crise chaque semaine. Il est anxiogène. Revenez à un rythme normal de travail que vous nous aviez annoncé au début du mandat. Réunissez les commissions. Nous avons constaté que la commission des permis semble devoir s'installer dans un rythme de croisière et nous avons reçu une convocation de la commission éducation, solidarité, jeunesse. Nous sommes donc en bonne voie. Poursuivez. Et faites-nous travailler sur des projets d'avenir, des projets post-Covid. Je pense en particulier au parc solaire photovoltaïque qui doit voir le jour sur l'ancien site de la Balastière. La transition énergétique est un enjeu d'avenir auquel il faut que nous consacrions sans retard. Je vous invite à nouveau à trouver les moyens de compléter ce projet que nous avions initié d'un volet hydrogène que le nouveau plan du gouvernement rend désormais envisageable. Alors, Monsieur le maire, donnez-nous le sentiment de travailler à notre avenir et associez-nous à ce travail. Merci.
Merci, Monsieur Barman. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Deschamps.
Oui, merci, Monsieur le maire. Je voulais faire un point sur les associations, éventuellement. Les associations ont reçu, il y a quelques jours, un mail émanant du service des sports dans lequel... Il nous est annoncé qu'il y a une permanence qui va être mise en place par Hervé Fru et Yvon Richard. pour écouter et échanger avec les associations sur cette période délicate. C'est bien sûr une action qu'on soutient, bien entendu. Monsieur Froli l'avait également proposé la semaine passée en visioconférence. J'aurais juste deux questions à ce sujet. La première, y aura-t-il un résumé de ces rencontres qui vont être faites dans les prochains conseils municipaux pour nous permettre d'identifier les réelles problématiques de nos associations? Ça nous permettra d'y travailler peut-être. Et ma deuxième question, il y a un récent sondage qui montre que les associations, en moyenne, avec cette crise, perdent ou ont perdu à peu près 25% de leurs adhérents, qui ne se sont pas encore inscrits ou qui hésitent à s'inscrire. Et pour certaines associations, les cotisations représentent une grande part de leur entrée financière. Je voulais savoir si des associations ilkirchoises avaient déjà fait remonter des problématiques financières. Et si il était prévu dans les prochains budgets des lignes supplémentaires pour justement pallier à ces problématiques et éventuellement aider davantage les associations. Merci.
Merci. Peut-être du coup sur les associations, Yvon Richard.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc Monsieur Deschamps, merci d'avoir évoqué cette problématique. Au jour d'aujourd'hui, aucune association n'a fait remonter au niveau du guichet unique des associations une problématique quelconque. C'est pas pour autant qu'ils n'en connaissent pas. On est bien d'accord. L'idée de ces permanences, c'est bien de rencontrer les personnes. Si ces personnes, en fonction des problématiques rencontrées ou pas, souhaitent qu'elles soient exposées en conseil municipal, c'est avec un très grand plaisir que je les présenterai. Mais bien entendu, en accord avec les responsables d'association, puisque ça reste des fois des problématiques qui sont propres à leur structure et qui ne souhaitent peut-être pas qu'elles soient débattues sur la place publique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le soutien aux associations, on est dans les starting blocks, si on peut dire ainsi, pour les aider. Après, on ne peut pas nous deviner en amont les difficultés éventuellement rencontrées. Le problème d'adhésion, certaines associations le connaissent parce que elles étaient en pleine phase d'inscription. D'autres les avaient déjà lancés, donc ne le connaissent pas. Dans un même temps, on a des associations, et en particulier les associations sportives, qui ont moins de frais, moins de déplacements. Donc on a des problématiques qui sont, je dirais, presque différentes à chaque association. Voilà, d'où l'intérêt. Le but de ces permanences, c'est rencontrer, éventuellement parler des difficultés, mais c'est aussi préparer la période post-Covid. À un moment, je l'espère, nous l'espérons tous, que cette période va changer dans le bon sens et que il va falloir que nos associations, nos activités et la politique sportive qu'on souhaite mettre en place sur la ville puissent à nouveau repartir. Et c'est déjà prendre un premier contact dans cette période un peu, on va dire, négative et avoir un petit aspect positif de... ou en tout cas une vision un peu positive à la sortie de ce tunnel.
Merci. Du coup, effectivement, sur les associations, on est très, très vigilant et on sera au rendez-vous. Et s'il faut mettre en œuvre un plan d'urgence, on le fera. C'est ce qu'on avait déjà annoncé. Mais comme le disait mon collègue, l'idée, c'était d'abord peut-être de pouvoir rencontrer les associations, faire un bilan sérieux avec elle pour voir les besoins, parce que les besoins ne sont pas toujours que financiers et de subventions. Néanmoins, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité pouvoir faire cette temporalité de conseil, pour pouvoir prendre des décisions, avancer, progresser. Et la commission Solidarité, elle a aussi pour but de pouvoir trancher au niveau des subventions qui sont demandées et pouvoir les voter assez rapidement pour qu'on puisse déjà débloquer un certain nombre de subventions dès la fin du mois de novembre. Et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment, il faut, je pense, dans ces périodes-là, pouvoir se réunir plus souvent. En tout cas, ça permet, vous voyez, d'avoir des échanges qui sont tout à fait intéressants, qui permettent aussi de faire remonter des idées, parce que j'ai toujours eu l'habitude de dire que quand on fait de la politique, on n'est pas omniscient, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, et c'est bien de pouvoir partager, de savoir écouter, de savoir donner la parole, et prendre aussi les bonnes idées, et reconnaître qu'on n'a pas toujours que toutes les bonnes idées, mais que les autres participants de ce conseil municipal peuvent justement nous faire remonter des choses tout à fait intéressantes. et pouvoir aussi continuer le travail sur le long terme, puisque bien évidemment, hein, on le voit au fur et à mesure des points qu'on peut voter dans ce Conseil, on est résolument tourné vers l'avenir, résolument tourné vers les projets que nous souhaitons mettre en œuvre. On a travaillé très sérieusement, je le sais, avec mes collègues, par exemple, du sport et des associations sur le hall des sports, et on avance très sérieusement dans les études sur ce sujet. On travaille avec mon collègue Ahmed Kougil sur la sécurité, le renforcement de la police municipale, hein, puisque les deux personnes qui arrivent en ce moment ne seraient pas arrivées si on n'avait pas continué à travailler. Mes collègues travaillent sur Serge Scheuer et André Steinhardt travaillent sur ces bons d'achat. Donc voilà, il y a des choses concrètes qui avancent, qui donnent de l'espoir. On va travailler, je le sais aussi, avec ma collègue Sandra Didelot au niveau des marchés, parce qu'on a déjà réadapté le marché pour cette période, pour pouvoir maintenir le marché, notamment dans l'offre alimentaire. Et ça, c'est vraiment un gain par rapport au premier confinement, de pouvoir maintenir un marché et travailler aussi au service des associations pour leur permettre, éventuellement, quand c'est des produits alimentaires qu'elles auraient souhaité écouler lors du marché de Noël, pouvoir le faire au moment des marchés hebdomadaires, leur proposer d'avoir un emplacement, puisqu'on a un peu plus de place que d'habitude, si je puis dire, puisque seul l'alimentaire est autorisé. Et donc, les traditionnelles associations qui prévoient de vendre des confitures ou d'autres choses pourraient le faire, si elles sont volontaires, à ce moment-là, au niveau du marché hebdomadaire. Et je pense que c'est un bon complément aussi pour trouver des manières d'écouler des produits en respectant des protocoles sanitaires, en respectant les règles sanitaires. Donc voilà, il y a vraiment une envie d'avancer, de progresser, mais aussi une envie de pouvoir échanger. Je pense que c'est important d'échanger dans cette période. On avait suffisamment reproché à l'époque de ne pas avoir d'échange pendant la période de confinement pour que cette fois, comme on peut en avoir, ben, on s'en empare. Après, chacun est tout à fait libre de pouvoir saisir ses opportunités ou pas. On n'oblige personne à être présent, mais en tous les cas, moi, je souhaite qu'on puisse les avoir. Monsieur Barman, allez-y.
Oui, merci, monsieur Philips. Oui, simplement, là, vous avez dit que la commission Solidarité pourrait étudier des demandes de subventions et que nous pourrions passer au vote avant le mois de novembre. Simplement, la commission Solidarité, elle se réunit le 2 décembre. Si l'objectif de la commission Solidarité, c'est de discuter de ces délibérations et de donner un avis, ce sera difficile d'avoir une décision fin novembre en conseil municipal. Donc c'était une observation. Et dans tout ce que vous nous avez dit, on constate bien, et on ne le remet pas en cause, hein, que vous travaillez. C'est juste que, par exemple, pour le sport, on a compris qu'il fallait qu'on ne le fasse pas ici, dans ce cadre-là, et on l'entend. En revanche, quand est-ce que se réunit la commission qui traite du sport ? Et tous les sujets que vous venez d'aborder, ce serait bien qu'on puisse effectivement, dans la discrétion nécessaire sur certains nombres de points, en débattre entre nous et que les commissions dont c'est l'objectif soient réunies. C'est encore une fois la demande que nous formulons, c'est la demande que nous avons formulée la semaine dernière. Je l'ai souligné, il y a un progrès puisque la commission des permis s'est réunie déjà deux fois. Alors, il y a une autre date pour le 2 décembre également, à la même date d'ailleurs que la commission Solidarité. Et pour l'instant, on a la commission Solidarité. Donc, s'il vous plaît, faites que nous puissions nous réunir et travailler dans un cadre qui permette de travailler, et pas dans un cadre sur lequel vous ne pouvez nous dire que la moitié des choses, parce que c'est un conseil municipal, et un conseil municipal délibère de choses qui sont actées sur la base de documents de travail. Et on comprend très bien qu'on ne peut pas amener n'importe quel document de travail ici, qu'il faut qu'ils aient été regardés de façon peut-être plus confidentielle, en tout cas dans un cadre qui soit plus adapté. Merci.
Parfait, merci Monsieur Barman. C'est vrai qu'au moins on a fait des progrès, puisqu'on se réunit quand même très régulièrement au conseil municipal, ce qui n'était pas le cas. Et c'est vrai que pendant le dernier confinement, on n'avait pas eu beaucoup de commissions municipales.